Le Livrodrome, c'est un parc d'attractions ambulant sur le thème du livre, en partenariat avec le CNL, Centre National du Livre, à destination des pré-ados et ados de 10 à 18 ans, destiné à leur donner le goût du livre, de la lecture et de l'écriture. De nombreux ateliers ont été organisés dans ce cadre avec des auteurs jeunesse ainsi que des rencontres autour du livre les 24 et 25 juin dernier à la médiathèque Jacques Duquesne de Liévin. On vous propose aujourd'hui une interview croisée avec Frédéric Couderc et Yann Legat sur l'écriture de l'histoire. Avec la complicité de Boris pour Radio PFM, on va donc évoquer avec eux le contenu de leur atelier et interroger l'écriture et la mise en image de l'histoire.
On accueille Frédéric Couderc et Yann Legat. Bonjour.
Bonjour.
Et puis avec Laura, donc on va vous poser des questions, mais vous pourrez également vous poser des questions entre vous, puisque c'est une interview un peu croisée sur votre travail. Vous faites partie, vous faites des ateliers aujourd'hui qui sont prévus. Peut-être commencer par Frédéric, qui peut nous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans l'atelier.
Alors, on va se retrouver pour une heure et quart. Moi, j'ai l'habitude un petit peu de donner des consignes assez... assez précise aux jeunes gens et jeunes filles qui vont participer à cet atelier. Du coup, là, je suis parti en fait de Liévin et du changement climatique. Et j'imagine, je vais leur demander de me décrire une scène assez précise d'un jour de changement climatique à Liévin, dans un futur relativement proche, avec un départ en fait à l'école et un but, puisqu'ils ne pourront pas y parvenir parce qu'il y aura une inondation qui sera donc le seul point de repère pour eux, j'imagine, hein, je connais pas très bien la ville, mais ça sera le puits en fait qui aura donc juste surnagé et l'objectif sera de grimper là-haut. Donc l'idée, c'est de réussir en une heure, parce que j'aime aussi qu'il y ait une restitution, mais en tout cas à quand même être sur une kipite, en fait, qui permet quand même de placer les choses, d'être sur un grain de sable et d'arriver un tout petit peu à boucler. Et ma manière de procéder, c'est qu'évidemment, bon, au bout d'un quart d'heure, on les met relativement, ça marche quand même relativement à tous les coups. Une fois que les jeunes gens, jeunes filles sont à l'aise dans l'écriture, il y a une sorte d'écriture automatique qui se met en place. Moi, je prends vraiment soin de leur dire tout de suite, je suis vraiment pas leur prof de français ou leur prof d'histoire. Donc, on est quand même dans une forme d'oralité, on va pas s'arrêter. Alors spontanément, par exemple, j'utilise des passés simples. En fait, c'est même pour ceux qui lisent peu, il y a quelque chose d'assez littéraire qui se met en place de façon presque un peu fantasmée. Mais je leur dis, mais allez-y, c'est pas grave, quoi. Et c'est vraiment que la mise en place, elle soit là, la réflexion autour d'un personnage principal qui va donc comme ça. Hein, donc en fait, c'est tout ce qu'on fait dans toutes nos histoires, c'est une arène, en fait, une arène, un personnage, et puis dialogue ou pas. Humour, peur, voilà, donc il y a comme ça des ressorts grains de sable. Et la restitution, là où elle est vraiment bien pendant un quart d'heure, c'est que de toute façon, bon, pour ceux qui avancent moins vite que les autres, on continue l'histoire à l'oral aussi. Enfin, je veux dire, on la boucle. Voilà, et moi j'aime m'adapter à chaque histoire, et je fais ça derrière l'épaule, mais qu'en fait, c'est toujours difficile de commencer. Donc parfois j'écris la première phrase pour eux, quoi. Mais en fait, derrière, waouh! Ça y va, quoi.
Et Yann Legat, alors du coup, vous, c'est la machine à bulles, la fabrique à bulles.
La fabrique à bulles, ouais. Je suis très content d'être là parce qu'en fait, je suis prof en lycée dans la vraie vie, pas dans la vie fantasmée, on va dire, de mes histoires. Et je suis très content parce que en fait, je suis brestois, donc je suis professeur en lycée à côté de Brest. Et j'ai vraiment hâte de voir comment les jeunes, ici, réagissent à ce que je vais leur proposer par rapport à mes lycéens bretons, quoi. Et du coup, je propose alors un atelier qui est centré autour de la guerre, qui s'appelle, d'un nom un peu ambitieux, Évoquer la guerre, imaginer la paix. C'est beaucoup plus, enfin, en tout cas, c'est très parlant. C'est-à-dire que quand on fait de l'histoire et dans l'enseignement de l'histoire, en fait, on ne fait qu'enseigner la guerre. C'est terrible, hein. Depuis l'aube de l'humanité. Je dis souvent à mes élèves en fin d'année, écoutez, cette année, encore une fois, on n'a fait que parler de gens qui se battent pour de multiples raisons, qui n'en sont pas, qui sont toujours illégitimes, mais ils le font quand même. Et on a parlé quand même d'espoir de paix, mais à chaque fois, désespoir qui était désavoué par les circonstances. Voilà, c'est terrible, mais n'empêche qu'il faut garder un petit peu la flamme, quoi. Enfin, en tout cas, c'est aussi pour ça que je fais ce métier d'enseignant. Et du coup, je voulais un peu croiser à la fois ce que j'ai raconté dans mes histoires, où je suis parti aussi dans une série qui évoque la tragédie de la guerre tout au long du XXe siècle, à travers une famille bretonne qui est un peu la mienne, et croiser aussi l'enseignement. Enfin bon, voilà, il y a plusieurs choses qui s'entrechoquent. Du coup, j'ai choisi de partir d'images de la guerre depuis Waterloo jusqu'à une manifestation pour la paix en Ukraine. Voilà. Et donc il y a une 25-26 images iconographiques assez célèbres. Ça va d'Autodix à Joe Rosenthal, Robert Capa, etc. Et je leur demande en fait de chercher, ou en tout cas de trouver trois mots. Donc là, on est vraiment dans le contraire de ce que tu fais, Frédéric. C'est-à-dire que là, c'est la synthèse, quoi. C'est-à-dire, voilà, ces images-là, vous ne connaissez pas le contexte, vous ne connaissez pas les circonstances, vous ne connaissez pas l'auteur, mais qu'est-ce qu'elles vous inspirent, en fait? Donc, trois mots. Voilà. Et après, l'idée, c'est dans la restitution, donc, qu'ils proposent, en fait, les trois mots, et je leur dis, voilà, les circonstances de telle ou telle photo. Et de croiser un petit peu, soit l'imagination qui rejoindra ou pas la réalité, quoi. On va voir.
Super. Moi, j'ai envie de rebondir. Effectivement, on se connaissait pas avant, mais en fait, effectivement, la littérature, qu'elle soit, là, je viens pour un livre jeunesse. J'écris plutôt pour la vieillesse. Enfin, non, pas trop. pour le public généraliste. Et en réalité, moi, la matière que je travaille toujours, c'est celle du temps qui n'existe pas. Enfin, c'est vraiment pour rebondir là-dessus, sur un continuum en fait de génération en génération et de reproduction. Ou pas, enfin, de paix, le cycle paix-guerre. Et en fait, ça me touche ce que tu dis, parce que le livre pour lequel je suis ici s'appelle Je n'ai pas trahi, qui est maintenant en poche. En fait, je suis parti finalement du travail d'un professeur, justement, d'histoire, en Corse. Et ça vient, donc c'est vraiment intéressant parce que ça vient de lui. En fait, il y avait une sorte de légende qui courait en Corse depuis longtemps, sur une protection qui avait été accordée aux Juifs sur cette île, qui en fait démontrait que non seulement aucune étoile juive n'avait été portée sur l'île, mais aucun juif n'avait été déporté. Et donc c'est quand même un événement assez fort, et pour une raison très très simple, c'est que en fait repoussé de Paris, puis par Vichy, etc., à Marseille, arrivant en Corse, ceux qui étaient là ont vraiment été protégés de façon spontanée, à la fois par l'administration et jusqu'aux bergers. Donc ça, c'est pas un mot, c'est pas rien, quoi, l'hospitalité corse face à une menace qui était plutôt italienne, hein, mais les Allemands sont aussi arrivés. Et en fait, dans ce geste héroïque, en fait, véritablement, parce qu'il y avait quand même des menaces, je parle de centaines et centaines de personnes, on les appelait les touristes, ils étaient dans des hôtels, donc c'était la vie, mais non, moi je suis avec un touriste, je suis pas avec un juif, etc. On refusait, même les policiers refusaient, ils disaient non, tu vas pas te faire inscrire à la préfecture. Enfin, il y avait vraiment une manipulation autour de, qui était très positive pour le coup, autour de l'administration. Mais par contre, les Corses sont silencieux, on le sait aujourd'hui, voilà, mais aussi dans le meilleur sens du terme. Et en fait, il a fallu attendre un professeur d'histoire, il y a quelques années, aux archives, pour déterrer un petit peu tout ça. Et donc moi, le processus narratif que j'utilise dans ce bouquin, c'est qu'il y a une partie roman historique, où véritablement on va suivre une famille, un jeune homme et sa sœur à 16 ans, qui vont être menacés, puis protégés. Là, on est vraiment dans le roman d'aventure, jeunesse assez classique. Et en fait, il y a un jeu, une faille spatio-temporelle, où à un chapitre sur deux, on est aussi aujourd'hui. Et là, on retrouve Nina qui a 16 ans aujourd'hui. Et encore, c'est qu'il va pour le coup être amené par son professeur d'histoire aux archives départementales, et donc je mets en scène véritablement, et là l'histoire va s'approprier, parce qu'en fait on peut le raconter comme ça, mais là ça va la percuter directement, parce qu'elle va se rendre compte que sa grand-mère était impliquée là-dedans, et notamment était une femme tondue. Et et donc première chose, c'est que je me suis aperçu que c'est peut-être hélas une invention corse, parce qu'en fait la Corse est libérée dès 43. Je discutais avec des historiens, ils me disaient, on n'a pas vu le truc comme ça, mais c'est vrai que spontanément, ils ont tondu des femmes qui avaient couché avec des Allemands ou des Italiens ou des collabos. Mm-hmm. C'est vraiment pour la façon, pour le coup, de la Corse. Et en tout cas, elle va percuter aujourd'hui cette histoire, et elle va refaire tout son chemin familial. Alors, c'était assez intéressant pour moi de faire vivre une ado aujourd'hui en Corse. Mais en fait, ce qui était difficile, et je pense que maintenant il est sorti, il y a eu le prix du roman historique à Blois, donc validé par quand même les grands historiens. Mais ce qui était important pour moi, c'est que je voulais que ça commence par une scène en classe, et qu'après on aille aux archives, qu'on soit vraiment. Et ça, croyez-moi, pour un auteur, c'est pas si évident de. Ils sont à l'école, évidemment, enfin, tu sais mieux que moi, toute la journée, et donc de se replonger pendant 50 pages dans les cours. les archives, c'est vraiment la matière morte. Et en fait, je pense que tout ce travail de rendre l'archive vivante et intéressante, voilà, donc c'est un lourd chapitre. J'ai vachement travaillé, retravaillé, puis aussi en cours, pour que ce rapport maître, enfin prof-élève, soit qu'on ait envie, quoi, qu'on ait envie d'être là-dedans. Voilà.
Alors, c'est intéressant ce que vous venez de dire, puisque ben c'est aussi un peu des épisodes qui ont été un peu oubliés. Et justement, ça me fait penser que tout récemment, il y a eu le Festival international du grand reportage et du film documentaire d'actualité, le FIGRA, qui était organisé à Douai. Et moi, j'ai vu un documentaire, et le public aussi, surtout beaucoup de scolaires, ont découvert un sujet qui avait quasiment pas été traité. C'était en 1942, à la gare de Lille-Fives, donc il y a eu des cheminots qui ont sauvé au moins 400 enfants avec leurs parents de déportation. L'épisode a complètement été oublié. Il a été ressurgi justement par ce documentaire que je vous conseille fortement, qui est très intéressé. On découvre des choses qui se sont passées à côté de chez nous et on ne savait pas. Voilà. Donc ils ont joué sur toutes les conséquences qu'il y avait dans cette fameuse déportation qui devait avoir lieu à Lille-Fives, où le train était en retard et pendant ce temps-là, tous les Juifs étaient sur les quais, et les cheminots se sont passés des mots, des messages, avec les gens du coin, les cafetiers, etc., pour sortir au fur et à mesure les enfants, les cacher, etc. Et du coup, ils en ont sauvé quand même pratiquement la moitié. Donc voilà, c'est un documentaire qui fait écho justement à des épisodes qui ont été complètement oubliés, qui sont historiquement très intéressants.
Nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Couderc et Yann Legat pour un échange sur l'écriture et la mise en image de l'histoire et les ateliers qu'ils animaient.
De brosser un peu le thème du roman. Et là, j'ai vu qu'il y avait aussi plusieurs tomes de Allons enfants, donc qui racontent l'histoire justement de cette guerre franco-allemande. Comment vous avez travaillé avec l'illustrateur pour mettre ça en forme ?
En fait, au départ, je remontais un peu sur ce que disait Frédéric. Le point de départ de cette histoire, en fait, se situe aux archives de la marine à Brest, où en fait, j'ai découvert un peu par hasard. J'écrivais aussi des livres d'histoire locale et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai jamais fait vraiment de recherche généalogique ou sur ma famille. Voilà, ça m'intéressait pas forcément, mais... Et donc, en cherchant un petit peu, je suis tombé sur le dossier militaire de mon arrière-grand-père. Donc, il était né en 1876, dans un petit village près de Brest qui s'appelle Pruneville-au-Christ. Et à l'époque, il y avait trois solutions. Soit on devenait paysan, soit on devenait curé, soit on devenait militaire. Et en fait, lui, il a choisi de devenir militaire, donc de s'engager dans l'infanterie coloniale à Brest. Et du coup, en suivant donc tout son parcours, je me suis aperçu qu'il avait fait l'expédition de Chine, dans la guerre contre les Boxers, Fashoda, qu'il avait fait les Dardanelles, le Maroc, enfin voilà. Donc il y avait tout un pan d'histoire de France, alors pour le coup quand même colonialiste essentiellement, qui apparaissait sous mes yeux. Et du coup, alors on parlait de matière morte, et la manière d'incarner en fait ça, je me suis dit, le point de départ, ça pourrait être ça finalement. Donc mon arrière-arrière-grand-père qui deviendrait le héros d'une histoire. Voilà. Alors après, avec les yeux forcément d'un enseignant du XXIe siècle, qui pourrait peut-être croire ou imaginer que son arrière-arrière-grand-père était anticolonialiste. Mais bon, ça...
voilà. C'est une autre histoire.
C'est une autre histoire. Et du coup, l'idée, effectivement... quand on écrit une bande dessinée, je suis assez... c'est ma première bande dessinée que je scénarise. En fait, l'idée, c'est effectivement de rejoindre toute l'émotion ou l'incarnation que l'on souhaite apporter avec un dessin. En fait. Et Pierre Fouillet est arrivé et a mis sa patte. Il a tout à fait compris en fait, vers quoi on voulait tendre ensemble. Et ça a été un vrai travail ensemble qui est, à mon sens, beaucoup plus intéressant qu'un travail solitaire. Enfin, aussi intéressant qu'un travail solitaire où la page blanche... le rapport à soi, à son imagination ou pas. Et c'est vraiment un exercice, très très intéressant, très très formateur, très très stimulant et très riche. Et après, alors sur le dessin, que je lis quand même assez peu de bandes dessinées finalement. Bon, j'ai laissé carte blanche et le fait qu'il puisse mettre en forme ma famille d'une certaine manière. Déjà, pour moi, c'était une émotion assez particulière.
Justement, avec l'illustrateur, il n'y a pas une petite entente à avoir aussi sur peut-être le souci du détail, parce que peut-être que vous vouliez apporter des détails au récit qui pourraient alourdir le dessin et tout.
C'est ça, ouais. Le prof d'histoire un peu relou. Non, alors là, non. L'uniforme là, des gendarmes, ça ne va pas. Non, en fait, je me suis aperçu que l'illustrateur était beaucoup plus précautionneux que moi. Donc lui, allait, alors je lui proposais des choses, mais lui allait vraiment dans le détail, parce que justement, c'était une forme de stratégie de défense, quoi. Il se disait, bon, il faut mieux que je sois très rigoureux, parce que sinon, j'ai le prof d'histoire qui va tomber dessus.
Mais c'est très juste ce que vous dites. J'ajoute quelque chose, parce que moi, dans mon travail, que ça soit donc jeunesse ou vieillesse, il y a vraiment, je fais une littérature de personnages. Et c'est vrai que moi, je me lance dans le truc à partir du moment où je les ai trouvés. Et d'ailleurs, souvent, un de mes personnages, ça peut être aussi une ville ou une île en l'occurrence, mais ça fait partie des personnages. Et l'écueil total qu'il faut éviter, que moi je vois comme lecteur encore, hein, et ça sur lequel j'espère avoir appris à travailler, c'est justement de balancer sa fiche Wikipédia, que ça soit en roman graphique et que ça soit pesant ou dans un roman. En fait, ça doit toujours passer. Alors, ce que je demande aussi dans l'atelier d'écriture, mais ça doit passer par des scènes, par des dialogues, par l'action, en fait. Moi, j'essaie toujours de contextualiser un petit peu, évidemment, parce que sinon, mais il y a trop d'auteurs, en fait, qui vraiment balancent comme ça, à défaut. Et puis, parce qu'en fait, je vois bien, quand on est tenu à une sorte d'échéancier d'écriture aussi, c'est satisfaisant de se dire qu'à la fin de la journée, on a fait 7 pages, et du coup, ça va tellement vachement plus vite, en fait, d'être un peu sur une grande démonstration historique. Et ça, et alors du coup, c'est un énorme boulot d'épure, hein. Enfin, vraiment, de quand on est dans des événements. Moi, je suis toujours quand même dans des événements forts, dans des périodes fortes. Là, typiquement, moi, j'adore cette histoire du quai de Lille. Enfin, vraiment, vous me parlez de ça, je vois déjà le quai. Mais là, je la vois déjà plus en romancier, en fait, qu'en historien.
Ouais. C'est là aussi, je pense, où vos deux travaux se rejoignent, parce qu'il y a peut-être un travail plutôt d'imagination aussi, dans la scénarisation, dans la BD. Mm-hmm. Et vous, peut-être plutôt dans le récit, un travail de représentation. Mm-hmm. Et tout ça, ça participe à la mise en scène, finalement.
Oui, oui, oui. Alors après, comme disait Frédéric, je crois qu'il faut faire confiance au lecteur, en fait. Il faut mieux suggérer que d'écrire, d'une certaine manière. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse des livres, en fait. C'est que on est dans l'imagination. Alors que, bon, la bande dessinée, c'est pour cette raison aussi que j'en lis un peu moins. C'est vrai que l'image, elle est là. Sauf que, quand on y réfléchit un petit peu, dans le processus créatif, il faut aussi donner à voir des émotions et des sentiments, en tout cas que l'on veut transmettre, en se disant, mais est-ce que là, maintenant, sur cette scène où cet enfant apprend que son père vient de mourir, qu'il est orphelin de guerre, est-ce qu'il y a besoin de dialogue? Bah, finalement, non. Mais ce genre de questions, on peut aussi se les poser comme ça, en se disant, d'une bascule à l'autre, entre les dialogues, ou en tout cas la voix off, peu importe, et le dessin, est-ce que parfois, est-ce qu'il ne faut pas faire passer le dessin plus que le dialogue? Je pense qu'il faut toujours arriver à cette idée que ce qu'on veut faire passer, en fait, c'est par honnêteté, d'une certaine manière. Et ce que tu disais, alors là, je te rejoins tout à fait sur le Wikipédia, tout ça. Alors, effectivement, on peut balancer. Voilà. Bon. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? J'enseigne au quotidien. Oui, j'ai des cours, mais je ressens très bien que lorsque je rentre dans l'anecdote, où on est plus dans des images fortes, des extraits de documentaires, où là, vraiment, on pose les choses et on est dans l'émotionnel. Alors après, qu'on relie au rationnel, bien évidemment, il faut toujours entrer dans un processus de problématisation, etc. Mais je trouve que c'est beaucoup plus porteur, en fait. Plutôt qu'un cours déballé, petit 1, tatata, tatata. Et en fait, oui, je crois que faire quand même laisser un peu la place à l'imagination, à l'imaginaire, faire confiance au lecteur, c'est essentiel.
C'était un sujet réalisé depuis le studio mobile de PFM lors du Livrodrome qui s'est déroulé les 24 et 25 juin dernier à la médiathèque Jacques Duquesne de Liévin. Une interview croisée avec Frédéric Couderc et Yann Legat sur l'écriture de l'histoire et les ateliers qu'ils animaient. Une interview réalisée avec la complicité de Boris pour Radio PFM.